Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mais qui est donc ce quart arrière avec la chevelure flamboyante? Les partisans des Jaguars découvrent le Trevor Lawrence nouveau. Des casse-têtes cette semaine pour les équipes de la NFL alors que plusieurs joueurs sont blessés en route vers la quatrième semaine de la saison. Est-ce que toi as une commotion? Est-ce qu'il aurait dû revenir dans le match? Est-ce que le protocole de la NFL est assez sévère? La zone payante vous explique comment le protocole fonctionne dans la NFL. Et des équipes commencent à être dans le trouble? Et quelles sont les équipes qui connaissent un mauvais début, mais qui pourraient tout de même s'offrir une place parmi les équipes en séries éliminatoires? Premier joueur à remporter le Super Bowl et la Coupe Vanier, BFF avec le Gronk et Fierté Boss Run, Anthony Auclair est notre invité cette semaine. Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Nicolas Gagné, très heureux de vous retrouver encore cette semaine et très heureux aussi de retrouver mon compère, compagnon, francopain et vieux camarade, Stéphane Cadorette. Salut Steph!
Tout ça en même temps, Jean-Nic, c'est beaucoup ça.
Oui, ben c'était un clin d'œil aux gens qui regardaient les pierres à feu le midi. Peut-être que c'est pas parti, mais...
Oui, j'ai fait ça au primaire en venant de l'école le midi avec mon petit lunch, ma pizza pochette réchauffée. Là. Ouais, les pierres à feu, ça faisait partie de mon rituel.
Exact, des beaux souvenirs. Mais là, il y a des choses qui sont déjà derrière nous, la semaine 3 de la saison 2022 de la NFL. On va y revenir tantôt, on va aussi... parler de nos prédictions plus tard dans l'émission, mais d'abord...
Non, on fait plus de prédictions terminées, j'en veux plus.
Arrête là, je sais, là, tu t'as déprimé toute la semaine, mais c'est pas si mal, là. Tu t'en tires bien, on va tout dévoiler ça tout à l'heure. Mais d'abord, cette semaine, Steph, on a un invité très intéressant et qu'on avait espoir de parler très rapidement parce qu'il se passe des choses pour lui. On va parler avec l'ailier rapproché Anthony Auclair. Salut Anthony.
Salut, bon, ça va bien?
Yes, merci d'être là.
Très content de te parler, Anthony. C'est le fun d'avoir de tes nouvelles. Puis je pense que le monde va apprécier aussi.
Ouais, puis on a cette année, à chaque émission, des invités. Puis on va faire la même chose avec toi, Anthony, si tu le veux bien. À chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, on pose pas mal la même question, à savoir quel est le plus vieux souvenir de football que la personne a. Est-ce que c'est avec ton père devant la télé? Est-ce que c'est quand tu as pris pour la première fois un ballon dans tes mains? C'est quoi ton plus vieux souvenir qui te rappelle le football?
C'est une bonne question. Le plus beau souvenir marquant, je dirais, c'est quand j'ai commencé à jouer vraiment du vrai football contact. C'était au primaire, en sixième année. J'étais carrière et mon numéro, c'était 23. Donc, c'est ça le plus vieux souvenir que j'ai, là.
Puis, après ça, t'as commencé à jouer de façon organisée, parce que toi, tu viens de la Beauce, en plus, là. Fait que, à l'époque, je sais pas, là, t'es quand même jeune, mais je présume que le football n'était pas si organisé, là.
Ah, c'était quand même assez organisé, je te dirais, avec l'Association des anciens Condors en Beauce, qui faisait un excellent travail de faire des tournois printaniers aux primaires. Donc, c'était cool, en ce temps-là, on pouvait commencer à jouer au football contact, là. C'est sûr que les gens sont plus sensibles à la sécurité des joueurs. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est plus du flag, ce qui est vraiment bien. Mais dans le temps, là, c'est ça, on avait des tournois printaniers déjà au primaire. Donc, c'était super super bien organisé déjà.
C'était quoi ta première équipe de football quand tu jouais?
On s'appelait les Kids. On était mauve.
Oh!
C'était du 8 contre 8, me semble. Puis, c'est ça.
Les Kids? C'était les Kids. Ah ouais, c'est pas pire, ouais. Ça.
Puis après, c'est ça, un nom représentatif, tu sais.
Ben, c'est nous qui l'avions trouvé, tu sais. On avait 12 ans, on avait inventé notre propre nom d'équipe. Et c'était cool.
Puis est-ce que, tu sais, je me demandais, là, t'as-tu toujours comme grandi assez tôt, là, comme un fan de NFL, plutôt un fan de la Ligue canadienne? Est-ce que tu regardais un peu la NCAA? Tu sais, comment t'as tombé dans Marmite un peu, là?
Chez nous, on a tout le temps été des fans de football. Mon parrain a joué longtemps, il a joué jusqu'à universitaire au GGs d'Ottawa.
Mario, hein?
Il a suivi, donc il nous a comme exactement Mario. Puis mon père l'a tout le temps suivi, il nous a comme transmis la passion, nous a amené voir les Dragons, le Beausset Chemin. Donc, on a tout le temps été des fans. J'ai tout le temps été un grand, grand fan de la NFL. Là, je voyais que ça dans ma tête. Je rêvais à ça. On regardait ça beaucoup. Puis j'étais un fan des Eagles de Philadelphie. Donc, c'est pour moi de. Ce qui est plate au Québec, c'est de pas accès à tous les matchs, normal. Mais dès qu'eux pouvaient jouer National TV, il fallait que je regarde la game là, parce que je fallait pas que j'en manque une. Puis dans la CFL, c'était les Alouettes, bien sûr, avec Anthony Calvillo, Ben Cahoon, tout ce monde-là. C'était le temps des Alouettes. Puis moi, je trippais bien raide. Je pouvais pas manquer une leur game non plus. On avait une activité prévue avec les amis. Et moi, je retourne chez nous pour 7h parce que la game commence à 7h. J'étais un grand, grand fan de ces équipes-là.
Les bonnes années de Donovan McNabb, sûrement, qui t'a fait apprécier.
Exactement, exactement.
Hey Anthony, si tu veux, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. C'est bien beau, Donovan McNabb, il joue plus au football. Toi, oui. D'abord, comment va ta blessure?
Ça va bien. Ça fait maintenant 7 semaines. C'est une blessure de 6 à 8 semaines. Donc, je commence tranquillement à courir, faire des changements de direction parce que c'est une blessure au genou. Donc, tout ce qui était changement de direction était un peu... on laissait faire pas mal dans les dernières semaines, mais non, ça va bien. Là. Je me sens prêt physiquement là, manque juste la volonté de vouloir jouer là, en ce moment parce que la réalité, c'est que contractuellement, mon contrat garanti, j'ai subi une blessure au camp, j'ai manqué le camp complet. On m'a relâché à cause de ça. J'ai pas pu participer à aucune pratique à part les 3 premières sur 6 semaines, donc c'est beaucoup. Beaucoup de temps manqué. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça sent bien.
Mais on parlait avec ton agent il y a quelques semaines, puis il nous disait ça un petit peu, là, que c'est des conditions, entre guillemets, idéales pour toi, parce que tu as un contrat garanti, tu peux travailler pour te remettre comme il faut, et le jour où tu vas être complètement remis, ça va être plus facile pour toi de montrer que tu es prêt pour faire un retour au jeu.
Exactement ça, c'est... En ce moment, je suis le CEO de ma compagnie. Tu sais, ma compagnie, c'est mon corps. Je peux travailler mon corps et faire une game à 75-80%. C'est ça la réalité. Puis, quand ils m'ont relâché, vraiment, j'étais surpris parce que j'aurais pu jouer. La réalité, c'est que j'aurais pu jouer la première semaine avec une brace. J'aurais pas été à 100%. Tu sais, c'est sûr que côté performance, à 100%, j'aurais pas été... vraiment prêt, mais tu sais, j'aurais pu jouer en forçant les choses. Mais là, dans la situation que je suis, où est-ce qu'ils m'ont relâché, c'était comme, OK, mais là, c'est parfait parce que pour moi, je peux prendre mon temps, parce que la réalité, c'est que quand tu es dans une équipe de la NFL, ils te laissent pas le temps de prendre le temps, justement. Donc, ils vont forcer les choses, ils vont vouloir que tu joues parce que tu es payé, c'est normal. Tu sais, j'en ai déjà subi les blessures, j'ai déjà forcé le jeu, tu sais, c'est pour la première fois que ça arrive, mais là, dans cette situation-là, ce qui me relâche, j'étais comme, bon, ben parfait, pour moi, vous me laissez le choix de prendre mon temps, puis de revenir à 100% comme il faut, puis de pas avoir des, pour le coup, mauvaises performances, parce que je n'étais pas à 100%, donc c'est le meilleur des deux mondes pour les deux équipes.
Là. Est-ce qu'il y a une crainte, tu sais, tu parlais de la volonté de jouer, vu que ton contrat est garanti, Anthony, pour cette année. Est-ce qu'il y a une crainte que si cette année le téléphone ne sonne pas ou que tu juges que l'opportunité n'est pas la bonne, que ce soit terminé dans la NFL ou tu te vois encore évoluer dans cette ligue-là?
Ben écoute, en ce moment, je suis plus si je suis honnête, je suis plus en mode j'évalue un peu ce que j'aimerais faire après ma carrière.
OK.
Je prépare un peu l'après-carrière parce que la réalité, c'est que. Les camps d'entraînement, les OTA, ces affaires-là, ça me tente un peu. Tu sais, les pratiques, 6 semaines de camp d'entraînement, c'est complètement ridicule. C'est pas vrai que tu arrives plus en shape pendant la saison. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Puis tu le vois après ça dans les 2 premières semaines de la saison, c'est là qu'il y a quasiment le plus de blessures. Puis tu vois comme le receveur des Giants qui se blesse tout seul sans faire de cut à rien. C'est comme... tout ça accumulé fait en sorte que les joueurs se blessent, manquent du temps, puis je pense que c'est mal géré, puis c'est un peu old school comme façon de penser, puis ça me tanne un peu, je suis un peu tanné de tout ça. Puis tu sais, j'arrive dans le meilleur shape de ma vie, c'est ça la réalité, j'arrive dans le meilleur shape de ma vie à 29 ans, à ma 6e année, quelqu'un me tombe dans les genoux, puis voilà que je suis chez nous, puis j'ai tout sacrifié ça un peu pour rien, dans le sens de jouer. C'est ça qu'au niveau salarial, c'est ce qui est. Il y en a ce qu'il y en a, mais le reste, c'est un peu frustrant. C'est pas la première fois que je me blesse ou est-ce que je vais manquer une certaine partie de la saison. Puis en fait, ça a tout le temps été ça. Si on regarde, les seules raisons pour lesquelles j'ai manqué des matchs dans ma carrière, c'est les blessures. Donc, ça commence à être frustrant, ça s'accumule un peu. Donc pour moi, je commence à regarder un peu ce qui peut se passer après ma carrière. C'est là que j'en suis. Je vais revenir à 100%, je me reste en santé, puis je continue de m'entraîner, tout ça. S'il y a une belle opportunité qui se présente, je vais probablement la prendre, mais c'est là que j'en suis mentalement.
Si un club t'appelait dans, je sais pas, au moins 3 semaines, tu te sentirais prêt là, à retenter ta chance? Ça dépendrait de quel genre de club c'est, j'imagine aussi. Est-ce qu'ils ont une chance de se rendre loin? Ça doit être un facteur aussi.
Tu sais, je suis conducteur en ce moment. Dans la réalité, c'est que c'est ça. Si c'est une équipe, et là maintenant, j'ai des critères. Si c'est une équipe qui est proche, une équipe qui a du succès, avoir la chance de retourner au Super Bowl, ça serait quelque chose de malade. Mais mm-hmm. La réalité, c'est que partir, à moins que ce soit une opportunité vraiment extraordinaire, mais partir super loin, puis je suis plus sûr, ça m'intéresse tant que ça. La porte est ouverte. La porte n'est pas fermée, ça c'est sûr, mais j'ai des critères maintenant que tu sais, la réalité, c'est lorsqu'on compare l'année passée, au début de la saison, j'avais à peine. Dans l'NFL, c'est dur d'avoir des contrats garantis. Puis là, j'en ai un.
Oui, oui.
Donc je peux pas me permettre d'aller dans une équipe où est-ce que j'aurais pas une bonne opportunité ou j'accepte d'aller sur un practice squad juste pour faire partie d'une équipe. Ça fait pas de sens en ce moment. Faut vraiment que je prenne une décision de business, c'est ça que je suis en train de faire. C'est pas le joueur qui parle en ce moment, c'est vraiment
le CEO.
Au final, le CEO, l'agent, Bob Stachon, on est en discussion tout le temps par rapport à tout ça, mais on n'est vraiment pas pressé parce que la réalité, c'est comme je dis, je peux pas être pressé de partir en ce moment, dans la période en plus où est-ce que souvent il y a le plus de blessures, donc. Pour moi, c'est de prendre le temps et de voir ce qui est vraiment une bonne opportunité.
Est-ce que dans la Ligue canadienne, il pourrait avoir des bonnes opportunités pour toi?
Tu sais, la réalité, c'est que c'est une bonne ligue de football. Mais pour moi, c'est surtout à la position de les rapprocher. Il n'y a aucune chance que j'aille dans cette ligue-là parce que c'est même pas un bon fit pour ma position, tu sais. Mm-hmm. De un, de deux, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu dans la NFL, côté blessure et tout ça, ça serait beaucoup sacrifier mon corps juste pour jouer au football. Tant qu'à ça, tu sais, je vais essayer la XFL parce que c'est plus un meilleur fit pour moi, c'est du football américain, pour ma position, mais ça reste quand même super bonne ligue, la CFL, mais tu sais, c'est pas un bon fit pour moi en ce moment.
Tu parles de ta position, Anthony, puis je suivais un petit peu dans l'entre-saison, là, j'entendais des tight ends, des alliés rapprochés parler du salaire puis de la difficulté qu'ils ont à aller chercher des aussi gros salaires que les receveurs éloignés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que la position de l'y rapprocher est sous-payée dans la NFL?
Ben, c'est dur de dire sous-payé parce qu'on
gagne mais comparativement exact.
Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. À cause que la réalité, c'est qu'on est un mix de joueurs de ligne offensive et de receveurs. T'es pas vraiment, tu sais, un gars comme Kelsey s'approche plus d'être un receveur, un gars comme moi s'approche plus d'être un O-line. Mais on n'est pas un O-line pis on n'est pas un receveur. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on a de la misère à être vraiment payé pour ce qu'on vaut. Parce qu'au final, le marché, un gars comme Kelsey, exemple, okay, son marché va dépendre des autres tight ends, ne dépendra pas des wide receivers, malgré qu'il peut avoir des meilleures saisons que n'importe quel wide out. C'est ça qui est un peu frustrant pour les élites rapprochés. Mais tu sais, au même titre que moi, je pourrais dire, ah, mais J'ai gagné un one-on-one contre J.J. Watt, puis cet accord-là a perdu un one-on-one contre J.J. Watt, mais il est payé 20 millions par année. Ça marche pas de même. J'aurais pas 60 à 80 snaps par game. C'est la même comparatif. Un tight end n'est souvent pas tout le temps sur le terrain. Fait qu'à partir de là, c'est dur de gagner autant qu'un receveur, exemple.
Anthony, je sais que c'est pas fait, là, on partira pas d'affaires, mais tu sonnes comme un gars qui serait quand même serein là, avec l'idée que ça pourrait être la fin dans NFL. Un, est-ce que c'est le cas? Puis deux, on sait que tu donnes un coup de main au GR présentement. Est-ce que le coaching, pour toi, ça pourrait être une option?
Ben, tu vois, c'est comme je disais tantôt, j'évalue un peu ce qui me tenterait de faire après ma carrière. C'est sûr que j'ai étudié en intervention sportive à l'Université Laval. Je coachais durant ma carrière universitaire. C'est toujours quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Puis en ce moment, ça me permet de voir si j'aime vraiment ça. Ça me permet de. Ça me garde aussi dans le game parce que j'enseigne des choses que moi je fais. Donc ça me garde un peu dans le game, ça me garde à jour. Ça me fait visualiser un peu mes choses. Donc c'est un gagnant-gagnant. Est-ce que je suis prêt à dire que je suis à l'aise avec le fait que la NFL ça fait fini? C'est une très bonne question parce que là, on est en pleine saison puis j'ai pas pris le temps de réfléchir à si je veux vraiment prendre ma retraite après la saison ou peu importe. Mais c'est quelque chose que je regarde, c'est quelque chose que j'évalue. C'est une évaluation constante en ce moment. C'est une question d'opportunité aussi, comme je disais tantôt. Si une bonne opportunité se présente, c'est sûr que ça va me tenter. Puis, mais l'affaire qui me titille, je vais tout le temps le dire, c'est un jour je prends ma retraite, c'est à cause des camps d'entraînement, des OTAs, man. C'est too much pour un joueur.
Même si on a réduit le nombre de matchs pré-saison, c'est encore trop, là, à ton avis.
C'est pas quoi. Faut faire attention aussi. C'est pas qu'on a réduit le nombre de semaines du camp d'entraînement, c'est qu'on a enlevé une game. Mais tu sais, la fin de semaine de cette game-là qui est pas là, c'est une pratique ou un scrimmage avec ta équipe. C'est ça le blow-man, tu sais.
Des fois, c'est quasiment plus intense, de toute façon. Là.
Ben oui, c'est ça. C'est plus intense, c'est fatigué. Puis après ça, on va avoir 17 games, 18 semaines d'activité de saison. Les joueurs ont été perdants là-dedans. C'est sûr que, personnellement, jouer plus de games, c'est bien plus le fun. C'est sûr et certain, mais le gros gap de temps que tu as traversé pendant le camp d'entraînement, à taper dessus pendant 6 semaines, ben là, ça, c'est...
Alors que souvent, en plus, les équipes sont, tu sais, à part 2-3 spots, là, il y a pas tant de spots d'ouvert là, maintenant dans la NFL. Là. Peut-être le practice squad, là, mais le 53, c'est rare qu'il y en a.
Non, c'est sûr que ton 53 est fait. Par contre, là, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Donc, tu sais, c'est ça un peu le conflit aussi, c'est que là, une équipe ne coupera pas un joueur en santé pour un joueur qui revient d'une blessure ou qui est blessé. Vous comprenez? Fait que pour eux, ça va être de s'assurer que je suis là à 100%, ça va être de me voir courir, ça va être de m'amener pour des visites, de faire des workouts, voir si je suis en santé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ensuite de ça, lorsqu'ils vont avoir une blessure, ben là, ils couperont personne pour avoir un gars qui est pas prêt à 100% ou qui n'ont pas évalué. C'est ça la réalité.
Bon, là, juste à l'heure, au moment du patinage, parce que ça m'intéresse aussi, tu as une carrière, tu joues avec des vedettes, en tout cas, tu as croisé Tom Brady, Gronk, toute cette gang-là. Là, j'aimerais ça savoir. Qui t'a gardé, mettons, comme contact? Là, à qui tu parles encore un peu? Des fois, tu textes, genre, hey, nice catch, là, genre en fin de semaine, des trucs comme ça.
C'est sûr que je suis resté proche de Cameron Brait. Recevoir un tight end avec les Bucks. On s'échange des textes. Je lui dis qu'il y a une bonne game. Même chose pour lui. On se tient au courant de comment ça va le camp ou comment ça va les pratiques. Tanner Hudson, un autre tight end qui est maintenant à New York avec les Giants, qui était avec un ancien mon coach de position de l'année dernière. Fait que, c'est un petit monde, la NFL quand même. Donc, tu sais, quand il a signé avec les Giants, j'ai dit à mon coach, hey, fais attention à ce gars-là, c'est un bon joueur, tout ça. Fait que on est une grande famille, c'est ça qui est vraiment le fun dans la NFL.
Puis tant qu'être dans ce rayon-là, t'en as affronté des studs dans la NFL, évidemment. On le sait, t'as été longtemps reconnu, puis tu l'es encore comme un excellent bloqueur à ta position. Tu sais, ça a jamais été nié. Qui t'a croisé sur ton chemin dans les autres équipes là, qui t'a pas mal donné du fil à retordre à bloquer? Là, qui,
tantôt, là.
Qui est une grosse game pour toi là, que tu te dis ouf, celui-là, il est pas facile?
Ben, des gars comme J.J. Watt, des gars comme Cameron Jordan, c'est tout le temps. Parce que dans la NFL, t'as des joueurs qui sont. Tu traces une ligne à l'extrême droite, un joueur physique, à l'extrême gauche, un joueur de finesse. Mais ces gars-là sont comme entre les deux, puis ils peuvent choisir, OK, sur ce jeu-là, je vais être un gars de finesse, sur ce jeu-là, je vais être un gars de physique. c'est ça qui est tannant, parce que un gars comme J.J. Watt, un gars comme Cameron Jordan, c'est des gars de 6'4, 6'5, 6'6, proche 300 livres, mais qui courent super vite. Et tu dis, OK, pour être capable de bloquer ce gars-là, il faut que j'amène du physique. Par exemple, il peut me passer un move de finesse, puis je vais juste tomber, puis il va faire un swing, puis il va me passer. Fait que, tu joues entre les deux, faut que tu sois un peu plus finesse, un peu moins physique, dépendamment des jeux. Donc c'est ça qui est cette mental game-là qui est difficile. C'est parce qu'ils sont tellement athlétiques, mais en même temps tellement physiques, qu'ils peuvent jouer avec les deux aspects. Donc c'est pour moi, c'est les joueurs les plus difficiles à bloquer.
Merci, Anthony, d'avoir été avec nous. C'était vraiment le fun. J'espère que tu vas mener le Rouge et Or à la Coupe Vanier cette année en tant que l'Université Laval étant mon alma mater. Je présume que Stéphane est d'accord avec moi.
Et voilà. On va surveiller ça de près.
Et on va te souhaiter que tu sois entendu, que ton message sur les camps d'entraînement soit entendu. Tu dois sans doute pas être le seul à trouver ça exagérément long parmi les joueurs. Puis on va souhaiter que tu trouves une équipe, mon cher, puis qu'on va avoir le plaisir, nous, de te voir jouer encore, puis peut-être te retrouver dans la zone des buts en spikant le ballon.
C'est bon, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Ça fait super la fun.
Merci, Anthony. Ciao.
Merci, Anthony. À bientôt.
Salut, boys.
Vous êtes sur le podcast La Zone Payante. Merci de nous suivre chaque semaine. Mon nom est Jean-Nicolas Gagnon, en compagnie de Stéphane Cadorette. Et c'est maintenant le temps de passer à travers les histoires et les actus de la semaine. Steph, plusieurs choses. Pas de grosses nouvelles cette semaine, mettons, mais plusieurs choses quand même dans les nouvelles pour la NFL. Commençons par celle qui va affecter à la fois les équipes et les propriétaires d'équipes Fantasy Football. Uh-huh. Il y a plusieurs blessés cette semaine qui pourraient avoir des impacts pour les équipes puis aussi pour mon équipe Fantasy. Je te laisse aller.
Ouais, les deux, effectivement. Ça a tombé pas mal comme des mouches. C'était jamais ça qu'on souhaite. Je trouvais que ça allait relativement bien. Il y a toujours des bobos là, à gauche, à droite dans une saison de football. C'est inévitable. Mais semaine 1, 2, ça allait pas si mal. Semaine 3, écoute, tu l'as vu, là, commençons par les Bills. Ça a été quelque chose, le match contre les Dolphins. C'est tout un match de football, mais faut le dire, là, je veux rien t'enlever, Jean-Nic, j'enlève rien à tes Dolphins, mais faut avouer que les Bills, c'était à peu près une moitié de leur alignement habituel. Là. Quand tu dis que 5 partants en défensive étaient déjà sur la touche.
Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que toute leur attaque était là et l'attaque a été sur le jeu 40 minutes.
Ouais, toute leur attaque, il manquait le centre Mitch Morse, puis si tu suivais là, dans le match, même son remplaçant Greg Van Roten, qui est habituellement un garde, s'est blessé aussi. C'était très compliqué au niveau de la ligne à l'attaque des Bills. Il y a eu d'autres blessés dans ce match-là. On est rendu à tellement de blessés dans la tertiaire que, pour te donner une idée, même le vétéran Xavier Rhodes était en visite mardi auprès des Bills là pour voir si on peut pas ajouter un peu de renfort, temporairement du moins. Ça commence à frapper. Puis pour rester dans cette division-là, je pense que la grosse nouvelle sur le plan des blessures, c'est le corps arrière des Patriots, Mac Jones. Sa cheville, là, ça semble un cas assez nébuleux. Est-ce qu'il va devoir être opéré? Est-ce qu'on va sauter la procédure puis il va pouvoir revenir plus rapidement avec des traitements de je ne sais pas quoi, là, un remède de cheval? C'est pour l'instant assez nébuleux au moment où on enregistre, mais... Tout semble indiquer qu'il devrait rater quelques semaines de jeu. Ça peut faire très mal aux Pats parce que tu te retrouves soit avec Brian Hoyer, un vétéran éternel réserviste dans sa carrière, qui s'est promené un peu partout puis qui a pas gagné un match depuis 2016, ou Bailey Zapp, le corps arrière recru. Il a bien paru au camp d'entraînement, honnêtement. Là, ça pourrait être une belle surprise, mais il reste que c'est une verte recrue sans expérience, un choix de quatrième ronde. Les Pats risquent de pas être pareils là, sans Mac Jones, ça c'est sûr et certain.
Non, parce que quand Mac Jones est sorti du terrain en pleurant, ça m'a rappelé un peu quand je sortais ma fille quand elle avait 8 ans et qu'elle s'était blessée au soccer. Tu sais, les parents vont chercher leur enfant au milieu du terrain qui pleure. Là. Mais je trouvais que Mac Jones avait la même phase de souffrance. Alors, ça devait pas être confortable.
Ça avait pas l'air à faire du bien, effectivement. Ses coéquipiers qui l'ont traîné jusqu'au vestiaire, c'était pas une blessure toute douce, disons-le comme ça. L'autre équipe qui a été très affectée, les Chargers, écoute, est-ce qu'on peut dire que c'est le jour de la marmotte, Jean-Nic? Il me semble que c'est ça à chaque année, les Chargers. Ils s'en sortent pas, il n'y a rien à faire. Là, on savait que Justin Herbert avait mal aux côtes puis que c'était pas évident. On l'a vu encore en douleur plusieurs reprises dans le match face aux Jaguars. Puis voilà que son centre, Corin Inslee, s'est blessé. Le bloqueur à gauche, Rashawn Slater, qui avait été extraordinaire à sa saison recrue, saison finie. C'est triste de même. Les Chargers, honnêtement, ça va être dur de protéger Justin Herbert. C'est au point où tu te demandes, là, maintenant, est-ce qu'il faut le retirer de la mêlée? Parce que quand ces deux gars-là sont tombés, il s'est fait massacrer, honnêtement, là. Ça allait bien jusque-là, mais on parle de deux grosses pierres angulaires de la ligne à l'attaque. Joey Bosa en défensive qui est tombé au combat. On avait déjà perdu les services de J.C. Jackson, une blessure qui finit plus par guérir. Le demi de coin qu'on a été chercher à fort prix pour renflouer la tertiaire. C'est très difficile, encore une fois, côté Chargers.
On s'en va à Détroit aussi, où malgré un début de saison qui mériterait un meilleur sort pour leur fiche, mais là, ça va être difficile de continuer à performer avec des 30 points par match.
Ouais, puis ce qui est compliqué, c'est que ces 30 points par match-là, j'en ai, qui viennent principalement de deux joueurs qui sont très explosifs dans leur attaque. Le receveur Amon-Ra St. Brown, tu sais, il avait eu une très bonne année recrue, mais on se demandait, est-ce que ça va durer? Tu sais, c'est un gars qui était sorti, je pense, en quatrième ou cinquième ronde. On se posait des questions, puis finalement, depuis le début de la saison, il était dominant. Il semble que ce soit pas une blessure très sérieuse à long terme, mais est-ce qu'il va rater de l'action? Ça va être à surveiller parce que sans lui, l'attaque aérienne des Lions a vraiment pas tant d'options. Puis DeAndre Swift, le porteur de ballon, qui lui aussi connaît un bon début de saison, plusieurs longues courses, très bonne moyenne de verges par portée, risque de rater du temps aussi. Fait que l'attaque des Lions, qui surprend depuis le début de l'année, pourrait en arracher dans les prochains matchs.
OK, on a fait le tour pour les blessures.
Ben, tu sais, il y en a plein d'autres, mais on finirait pas. Je te dirais que ça, c'est pas mal ce qu'il y a à retenir cette semaine, malheureusement. Là, c'est jamais le fun là, pour les blessures, comme tu disais, pour les fantasy, mais bien plus pour les joueurs dans la vraie vie, là, honnêtement. Oui. Fait que, puis les équipes là, qui en subissent les conséquences.
Et pour te rassurer, j'ai Mac Jones dans aucun de mes pools. Deuxième sujet que j'aimerais ça aborder avec toi, c'est Josh McDaniels. Puis les Raiders, c'est un peu plus large. Mais rappelle-toi ce que Josh McDaniels avait dit quand il avait terminé ses deux années un peu chaotiques à Denver. Il avait dit « J'ai appris ma leçon ». Et que là, on s'entend que 0-3, un début plutôt houleux déjà à Las Vegas. Comment t'entrevois la suite de la saison? Puis est-ce que Josh McDaniels est déjà sur le hot seat?
Hey, je peux pas croire. Je peux pas croire qu'on dit ça, là, Jean-Nic. Non. À cause que c'est les Raiders, on peut se poser des questions parce que la famille Davis, traditionnellement, sont capables de péter une coche, on s'entend. Puis d'ailleurs, après le match, semble-t-il qu'il y a eu une rencontre longue à porte close entre Mark Davis, le propriétaire, fils du feu Al Davis, et le coach en chef, justement, Josh McDaniels. Fait que ça, écoute, qu'est-ce qu'on a parlé? C'est sûr qu'il n'a pas menacé de perdre sa job, on s'entend, là, pas après trois matchs. Mais c'est pas nécessairement rassurant. Là. Sauf que tu regardes ça comme il faut. Les Raiders sont si près, mais si loin du but. T'sais. Ils ont perdu par 5 contre les Chargers. C'est pas nécessairement gênant. Ils ont eu un très mauvais quatrième quart contre Arizona, un match qui dominait complètement après trois quarts. Tu sais, ça semblait s'en aller vraiment dans la bonne direction. Ils l'ont échappé à cause d'un mauvais quart. Puis, ils ont perdu par un converti de 2 points ratés contre Tennessee en fin de semaine. Tu sais, quand je te dis si près, mais si loin, c'est une équipe de 0-3, mais c'est pas un désastre. Ils se font pas déclasser. C'est pas une catastrophe. On s'attendait à mieux, c'est clair. Moi, ce qui me déçoit, entre autres, Jean-Nic, c'est au niveau de l'attaque. Je trouve pas que c'est une attaque qui produit à la hauteur des joueurs qu'elle met en place. Là. T'sais, on a été chercher Devante Adams, il est très bon jusqu'à maintenant. Mais écoute, c'est surprenant. Tu vas voir, Mac Hollins a des meilleurs chiffres que lui avec les Raiders. Là.
Il a connu un gros match en fin de semaine.
Ben oui, c'est ça, là, tu sais, puis je suis pas en train de dire qu'il est meilleur qu'Adams, là. Adams, ça reste le meilleur receveur de cette équipe-là, un des meilleurs receveurs de la ligue, mais justement, quand tu l'as dans ton line-up, faut que tu produises plus à l'attaque. C'est très décevant, là, au niveau de l'attaque aérienne. des Raiders. Puis pour te dire à quel point ils sont dans le trouble, moi, je suis souvent de l'école de pensée qu'il faut pas paniquer puis qu'il faut garder les choses positives. Mais c'est la seule équipe de 0-3 depuis l'an 2000 qui a fait les séries. C'est les Texans de Houston en 2018. Puis pour ce que te montrer ce que ça prend là pour remonter à pente comme ça, c'est une pente à brut. Ils avaient été gagnés 9 matchs de suite, eux autres, après leur séquence de 3 défaites pour amorcer la saison. Fait que ça va prendre de quoi de gros là avec les Raiders. Tu peux pas te contenter de gagner un match puis ah on est reparti là. Tu sais, ça va prendre une bonne séquence de victoires. C'est ça qui est inquiétant là, de ce côté-là, parce qu'on le sait, on l'a répété souvent, ils jouent dans une division qui est très forte. Là, ce sera pas évident.
On pensait qu'elle était très forte en début d'année. Là, on va se poser des questions peut-être plus tard, on va en reparler.
Effectivement.
Un autre sujet, puis là, ça, c'était vraiment... Tu sais, l'an passé, on riait d'Urban Meyer. Là, on se disait, quel clown! Il faisait gaffe par-dessus gaffe avec les Jaguars, autant en public que de la façon dont il gérait l'équipe. Puis là, lui, quand il regarde la TV le dimanche, là, il doit se dire, c'est qui le gars avec les cheveux longs qui lance le ballon? Il était pas là l'an passé.
Ouais, probablement que ça se peut. Parce que, sincèrement, je me rappelle de l'an passé, Urban Meyer, à un moment donné, il s'était fait questionner sur un de ses maraudeurs, André Cisco. Puis il disait, je trouve qu'il joue mieux dernièrement, mais le problème, c'est que le gars en question, il jouait pas, tu sais. Il était pas là. Fait que, ça se pourrait. Écoute, peut-être qu'il se dit, c'est qui ce gars-là, effectivement. Puis Trevor Lawrence, moi, j'avais pas été nécessairement tendre avec lui en début de saison parce que, pas que j'y croyais plus, j'avais précisé à plusieurs reprises dans ma chronique qu'il y avait encore plus de chances qu'il explose puis qu'il connaisse vraiment un essor intéressant que finalement on se dise, ah, c'est un bust. Mais je disais, j'ai hâte de voir des signes, j'ai hâte de voir de la constance de son côté. Là, ce qu'il vient de faire, Trevor Lawrence, c'est de coller deux gros matchs de suite. Il a vraiment très bien joué dans les deux dernières semaines. Tu sais, c'est un peu le corps arrière auquel on s'attendait. Ce qui surprend dans son jeu, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que son pourcentage de passes complétées a augmenté de 13%. Il est rendu à 69% de passes complétées. L'an passé, il était à 56%. C'est quand même une augmentation majeure. Tu sais, je compare pas les deux joueurs, mais ça me fait penser un peu au jump qu'a connu Josh Allen là, de ses moments difficiles à ses débuts. Après ça, il est devenu un corps arrière beaucoup plus précis.
Ça, c'est comme passer de, mettons, 16 passes réussies sur 30 à 22. Là, avec,
ça fait une méchante différence.
Dans un instant, ça fait une différence, c'est sûr.
C'est sûr. Puis, ce qui explique ça, entre autres, il est très bien protégé. Seulement 2 sacs à ses dépens cette année. Là, tu sais, les Jaguars, ça n'a pas été reconnu comme une machine pour la ligne offensive là, dans les dernières années. Puis il distribue très bien le ballon, Trevor Lawrence. Là, je regarde ça au niveau des statistiques individuelles chez ses receveurs, tout receveur confondu, là, incluant les ailiers rapprochés. Il y a 4 d'entre eux qui ont au moins 10 réceptions depuis le début de la saison. Fait que c'est pas comme s'il y a une cible, puis il lock down sur sa cible, il se concentre là-dessus, puis il voit plus rien. T'sais, il est capable de mieux distribuer le ballon. Puis défensivement, hey!
Et pour finir sur l'attaque, là, mais pour finir sur l'attaque, ouais. Tu sais, Kirk. Ils ont donné un gros contrat, puis ils sont pas déçus. T'sais, tu dis des fois, tu ajoutes un receveur de passe l'été, puis tu penses que ça va tout changer. Mais en tout cas, ça change pas tout, mais ça l'aide vraiment.
Ça l'a aidé Lawrence, puis je suis pas encore prêt à dire que c'est un bon contrat parce qu'on a donné beaucoup d'argent pour un receveur qui jusque-là était plus un bon petit numéro 2, je te dirais. Là. Mais jusqu'à maintenant, force est de constater qu'il joue bien. Il joue bien et puis il contribue à l'attaque. Puis défensivement, ben les Jaguars, juste pour finir là-dessus, moi j'ai été renversé de constater que jusqu'à maintenant, c'est la meilleure équipe contre la course. Ils donnent 55 verges seulement par match. Devon Lloyd, le secondaire recrue, honnêtement, là, il est fantastique. Tu regarderas des matchs des Jaguars, tu peux pas le manquer, là, Jean-Nic. Il est partout sur le terrain. Autant en couverture de passe que pour le jeu au sol, justement, il court vraiment d'un bout à l'autre. Tu sais, le fameux sideline to sideline linebacker là, qui disent en anglais, c'est exactement le prototype. Les Jaguars, je pense qu'ils ont frappé un gros coup de circuit avec lui.
OK, merci Steph. C'est ce qui conclut pas mal nos histoires et nos actus de la semaine. Et après la pause, on va prendre les questions des auditeurs et on va.
Il y en a pas mal.
Ouais, il y en a pas mal. Puis on va aborder aussi. Une question très importante de la semaine après que Tua Tagovailoa est retraité au vestiaire. On pensait que c'était fini pour lui, mais il est revenu au jeu à la deuxième demi. On va essayer de comprendre pourquoi. Bougez pas. Question du public. Vous écoutez La Zone payante, un balado de Cube Radio. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie du journaliste expert football pour le Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette. Steph, on va aller aux questions du public, si tu le veux bien. Puis une question que qu'on a eue en assez grande quantité, puis on va prendre la question de Paul, qui nous dit, avec la blessure de Tua, plusieurs se posent la question, comment ça fonctionne le protocole de commotion dans la NFL? Est-ce qu'ils l'ont laissé partir sans vérifier s'il était correct?
Ouais, c'est la question que tout le monde se pose parce qu'on va juste rappeler les faits deux secondes. Là. Tua se fait pousser au sol un peu tard, disons-le, là, par le secondaire des Bills, Matt Milano.
Qui a eu une pénalité par ailleurs.
Il se cogne la tête au sol, il se relève. Wow, c'est un petit peu compliqué. Là. Il est pas seulement boiteux, il a l'air complètement étourdi, il fait des faux pas, il a de la misère un peu à marcher. Il se fait évaluer. Les Dolphins annoncent qu'il y a une blessure à la tête qui va se faire évaluer pour une commotion cérébrale dans le cadre du protocole. Puis là, on en arrive à la question comment ça fonctionne, le protocole. Pour relier ça au cas de Tua plus spécifiquement, là, ça dit spécifiquement dans le protocole, quand un joueur démontre une grande instabilité motrice, il doit être évalué. Ça a été fait. Il n'y a pas de doute là, concernant ça. C'est pas que Tua n'a pas été évalué et on a fait « Bah, tu sais, bah, vas-y, là, mon grand. » Ensuite, ça arrive, cette situation-là, ça dit pas que si un joueur démontre une grande instabilité motrice, qu'il doit forcément rester au banc. Il doit être évalué. Qui l'évalue? C'est un médecin de l'équipe, oui, d'abord, mais ça doit être fait de concert avec un neurophysicien indépendant. Ça, ben écoute... Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? On le voit pas. Je pense que ça a été fait. Là. Je peux pas croire qu'une équipe va tricher sur un protocole. Toi, après le match, il a déclaré qu'il a passé tous les tests. Il a attribué sa difficulté à se tenir, lui, par une blessure au dos qu'il avait subie sur une faufilade du corps là, quelques jours plus tôt. Semble-t-il là, que il s'était lancé là, dans le dos puis que ça a affecté sa démarche après le coup qu'il a mangé. Là. C'est sûr que tu regardes ça à la télé, c'est un très mauvais visuel, ça donne un mauvais look aux Dolphins, à la NFL. On se dit que le protocole est pas sérieux. Puis la façon que fonctionne le protocole, ben ils vont d'abord discuter avec le joueur pour voir comment sa blessure est survenue, qu'est-ce qu'il ressent exactement, est-ce qu'il est capable de bien s'exprimer, est-ce qu'il y a des souvenirs du coup. On va examiner le cou, la tête, il y a un examen neurologique crânien, puis des systèmes sensoriels. On va même faire des petits tests, le test cognitif, test de concentration. Ça peut être tout simple, Jean-Nic, c'est pas des grosses affaires. Là. On va pas aller demander qui a régné à telle période de l'histoire en Italie.
Divise-nous 1883 par 750, là.
Ouais, tu sais, même c'est plus simple que ça encore. Là. Je lisais un exemple, puis on dit qu'on peut demander des suites à des joueurs. Mettons, on va lui dire, OK, fais-moi l'inverse de la série 6-7-3. Fait que là, le joueur doit répondre évidemment 3-7-6. Si on voit qu'il est confus, que ça vient pas naturellement, ben là, il se pose des questions. Finalement, est-ce que Tua aurait dû revenir dans le match? C'est louche quand on regarde ça. C'est sûr que de l'extérieur, moi, j'ai été le premier, là, ces réseaux sociaux comme bien d'autres, à me dire que ça nous met pas en confiance par rapport au protocole de la NFL. Les Dolphins, Tua, jurent que tout a été fait dans les règles de l'art. Est-ce que c'est vraiment sa blessure au dos qui l'a affecté?
Moi, j'ai regardé sa faufilade du corps avant, puis c'est vrai qu'il s'est vraiment fait tordre, là.
Ben, c'est ça.
Il est ressorti en gigotant un petit peu là, cette fois-là aussi. Là. Puis après ça, il a dit que c'est ça. C'est que c'est le mec Daniels expliquait que selon toi, ses jambes étaient en gombi. Là.
Avec toutes les controverses de commotion cérébrale qu'il y a eu. Je pense qu'objectivement, là, on n'a pas le choix de dire que la NFL s'est améliorée. Il y a eu des choses qui ont été mises en place qui sont, à mon sens, sérieuses. Est-ce que tout est parfait? Je pense que ce sera jamais parfait. Imagine l'exemple où, dès qu'un joueur est frappé à la tête, on le sort automatiquement du match. On se dit, on joue pas avec ça, on le sort du match. Est-ce qu'il y a des joueurs mal intentionnés en défensive qui vont se mettre à dire, écoute, là, Josh Allen, là, on va le frapper à la tête, on va être sûr qu'il sort, puis on va faire ça à Aaron Rodgers, puis à Tom Brady, puis Alvin Kamara, puis name it, là. Je pense pas que les joueurs seraient mal intentionnés à ce point-là, mais tu ouvres des portes, tu ouvres des zones grises que tu veux pas aller là-dedans. Là. Fait que, bref, je pense que le protocole est loin d'être parfait. Je sais pas si Tua aurait dû revenir dans le match parce que on n'est pas là, on n'a pas participé à l'évaluation.
On n'est pas médecin.
Des choses certaines, ça paraissait mal de le voir marcher comme ça, c'est de le voir un peu...
Il y a une enquête, en tout cas, là, de l'association des joueurs.
Ouais.
Là, au moins, ça, on risque d'avoir...
On risque d'avoir le fin fond de l'histoire. Ouais. Puis ça, c'est intéressant. Je suis content que tu le mentionnes. C'est un point que j'avais oublié. La game était même pas finie. Puis on apprenait que la NFLPA, l'Association des joueurs, allait enquêter sur la gestion de la commotion. Donc, c'est les joueurs, ça niaisera pas avec ça. Là, c'est pas toujours copain-copain avec la Ligue, donc faut le voir du bon côté pour ça.
OK, on va essayer de passer le plus de questions possible. Simon nous pose une question. Mauvaise signature, sans doute, à l'attaque. Et une ligne à l'attaque dont on a vu les faiblesses lundi contre les Cowboys. Est-ce que les Giants vont retourner dans la cave de leur association? Là où il devrait être. Peut-être que c'est un partisan découragé.
Ça sonne comme ça, ouais. Ben, c'est fort possible, honnêtement, parce que quand tu vois ça, Daniel Jones, selon Pro Football Focus, il a été sous pression, tiens-toi bien, 35 fois dans le match de lundi. 35 fois, là, c'est comme insoutenable. Tu peux pas survivre à ça.
Il a reculé combien de fois pour faire des passes, mettons 40,
45? Ah, quelque chose comme ça, c'était ridicule. Fait que c'est comme impensable comme chiffre. Il y a Sterling Shepard aussi, le receveur qui est fini pour la saison. Kenny Golladay, le receveur signé à gros prix. Tu sais, Simon parlait de mauvais contrat. Ça, c'est l'exemple parfait. Là. Il se produit rien dans son cas. C'est zéro
pin match, en plus, il y avait une occasion de gagner un premier essai, échapper le ballon.
Et voilà. Là, il dit, je m'en veux. Ouais, mais ça fait un bout là qu'il se passe rien dans son cas. L'année passée non plus, il s'est rien passé. Un gars qu'on a signé pour 72 millions, si ma mémoire est bonne, c'est ce qui complique. Là. On dit, il est sur le marché, Kenny Golladay. Ouais, je veux bien qu'il soit sur le marché. Qui veut de son contrat actuellement? C'est pas évident. Fait que les Giants, effectivement, mauvais contrat, mauvaise ligne offensive. C'est fort possible que la ballonne pète dans pas long. Là.
Jean-François qui nous pose la question. Est-ce que les Broncos vont regretter leur investissement envers Russell Wilson ou il est encore trop tôt pour s'inquiéter? Ou comme dit Eli Manning, il aurait peut-être dû payer 235 millions pour un kicker.
Ouais, là, c'est vraiment trop tôt, moi, à mon avis. Là. Je comprends que c'est vraiment pas chic ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Là. C'est pas rassurant, mais faut pas oublier une affaire. Malgré son mauvais match, il a démontré encore qu'il pouvait être clutch au moment opportun là, contre les Niners. C'était pas beau, là. Ceux qui ont écouté ce match-là dimanche soir, c'était un des pires Sunday Night Football que j'ai vu. Là. Il n'y avait pas d'attaque, c'était décourageant. Mais Russell Wilson arrive dans une nouvelle ville, nouvel environnement, nouvelle équipe, nouveau système. Ça peut demander un petit bout de temps. Je comprends qu'il y en a qui s'adaptent extrêmement rapidement. Là. Ça paraît même pas. On dirait qu'il n'y a pas de transition. Moi, je continuerais d'y donner un bon bout. De toute façon, anyway, les Broncos, c'est quoi qu'ils peuvent se dire? Là? Bon, on regrette notre investissement, mais tu peux pas. Tu balances pas tout. Là. Tu continues avec lui. Il y a un élément, moi, qui m'inquiète sur Russell Wilson. Je trouve qu'il a l'air un petit peu moins mobile, moins athlétique que par les années passées, comme s'il en avait perdu un peu. Il est encore capable là, d'aller gagner un premier essai à la course. C'est pas un problème, c'est plus au niveau du mouvement dans sa pochette. C'est le point d'interrogation dans mon cas.
Moi, un partisan des Broncos qui regardait son match dimanche, là, il devait se poser la question, coudon, ils ont-tu pratiqué? Écoute, là, les miscues, les passes par-dessus, les tracés courus de croche, franchement, là, à l'attaque, là, ça cliquait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Alexis nous pose la question. L'échantillon est mince, mais quel receveur choisi en première ronde, incluant Christian Watson et même Romeo Doubs, sera le meilleur à long terme, selon toi, mon cher Stéphane?
Bonne question. C'est intéressant de parler des receveurs recrues parce qu'à chaque année, on dirait qu'il y a une cuvée extraordinaire. Je pense qu'au niveau de la NCAA, on produit de plus en plus des receveurs qui sont prêts pour le monde professionnel. S'ils parlent d'inclure Watson et Doubs, les deux receveurs des Packers, c'est qu'ils n'ont pas été choisis en première ronde, mais c'est quand même des gars qui risquent d'avoir des rôles importants. Pour répondre à la question, je pense, Alexis, que Doubs, à court terme, a peut-être les meilleures chances de succès. parce qu'il joue avec Aaron Rodgers. On l'a vu, là, il commence à y faire drôlement confiance. Il y a eu 7 ou 8 réceptions là, dans le match de dimanche. À long terme, Garrett Wilson me semble plus complet avec les Jets. C'est un gars qui est très technique sur ses tracés. Il est capable aussi d'être explosif, très rapide. Donc, je pense qu'il a pas mal tous les atouts dans son jeu. Ça a été le fun de voir Chris Olave, son ancien coéquipier à Ohio, qui a explosé avec les Saints en fin de semaine. Mais à long terme, je miserais plus sur Wilson. Puis moi, le gars que j'ai hâte de voir, c'est vraiment Jameson Williams à Détroit. Il est sur la touche, il s'était blessé, on se rappelle, lui, à ses derniers moments avec l'Université d'Alabama. Tellement explosif, là, ce gars-là. 19,9 verges à sa dernière année en Alabama. Je pense qu'il va devenir, à plus long terme, le plus dangereux de la QV. Peut-être pas le plus complet, mais le plus dangereux pour les longs jeux.
Robin nous pose la question sur Baker Mayfield. Comme lui, Robin semble déjà classer les Panthers comme hors des séries, mais est-ce que, si c'est le cas, puis que Baker Mayfield, clairement... n'est pas capable d'amener son équipe en série. Est-ce qu'on devrait pas donner la chance à Sam Darnold de faire ses preuves?
C'est intéressant comme question, Robin. La seule chose, c'est que Darnold, moi, je considère qu'il a eu en masse de chances de faire ses preuves. T'sais, il est rendu à 39 départs dans la NFL. Je sais qu'il y a 10, 15 ans, c'était peut-être pas beaucoup. Mais dans la NFL d'aujourd'hui, je pense que c'est un assez bon échantillon. Il y a eu 11 départs en Caroline l'an passé. 9 passes de toucher, 17 revirements dans ces 11 départs-là. Ça a été ça, souvent, Sam Darnold, que ce soit avec les Jets ou les Panthers, son talon d'Achille, là, tu sais. C'est souvent ça, les revirements qui multiplient là, de match en match. Puis, il y a ça, mais il y a eu une compétition qui a été très juste au camp aussi. Les deux ont à peu près obtenu les mêmes opportunités de se faire valoir. Puis, les Panthers ont évalué que Baker Mayfield a clairement gagné la compétition. Donc, pour moi... la seule façon de revoir Sam Darnold, c'est soit une blessure importante à Mayfield ou les Panthers vont vraiment, vraiment nulle part. T'sais, en ce moment, ils sont 1 et 2, ils viennent de gagner un match. Je continuerai avec Mayfield, puis advienne que pourra. Je suis pas prêt à retourner vers Sam Darnold.
Notre fidèle auditeur PL Roussovski qui nous pose la question, on en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que les Jags ont une chance de faire les séries?
Je pense qu'ils sont clairement améliorés. Ils vont continuer de s'améliorer. Les séries, je trouve que c'est trop vite cette année. Ça serait un, tant mieux pour eux autres. Il y a rien de trop vite. Mais je veux dire, moi, j'y crois pas personnellement. Je pense qu'ils vont retomber un peu sur terre. Ça va être une équipe qui va avoir des hauts et des bas, là. En ce moment, ça va très bien. Mais, tu sais, attendons, là, qu'ils pognent de grosses, grosses équipes. Je comprends que les Chargers, c'était considéré comme une grosse équipe. Puis ils ont vraiment malmené. Ça m'impressionne. Une victoire par 28 points, honnêtement. Mais comme je le disais, il y avait beaucoup de blessés. Justin Herbert, qui est clairement pas à 100% de ses capacités, même pas proche. J'ai hâte de voir contre les Eagles, là, la façon qu'ils vont jouer. Je demande même pas une victoire, mais s'ils jouent bien, s'ils tiennent, puis que c'est un match serré, je vais peut-être commencer à changer mon fusil d'épaule.
Jérôme nous pose la question. Le piètre rendement à l'attaque des Bears est-il attribuable à Justin Field ou au système de jeu? Parce que Field n'a pas 300 verges d'accumuler par les airs en 3 matchs.
Non, c'est ça. Puis c'est compliqué avec Fields jusqu'à maintenant, mais j'ai l'impression que les Bears le cachent. C'est vraiment drôle. Il y a 45 passes tentées en 3 matchs, Justin Fields. C'est une moyenne de 15 par match, là. C'est pas trop dur.
On se rappelle qu'ils ont eu un match dans la pluie battante, quand même.
Oui, c'est ça. Juste pour te montrer, 45 passes tentées, là, Jean-Nic, il y a 4 équipes la semaine passée qui ont lancé plus que 45 passes, juste dans la semaine 3. Là.
Okay, ouais.
Puis lui, il a 45 passes tentées depuis le début de l'année. C'est comme s'il y a une question de confiance à un moment donné. C'est clair qu'il a joué comme un pied le dimanche. Il y a pas d'autre façon de le dire. 2 interceptions, 2 fumbles. Il l'a dit lui-même après le match. Il a dit « Je peux pas jouer comme de la merde comme ça. I played like shit. » Il y a quelque chose, ça fonctionne pas. Est-ce que c'est le système? C'est dur à dire, mais ce que je trouve, c'est que les Bears ont l'air d'avoir peur de ses erreurs, peur de ce qu'il va faire. À un moment donné, il va falloir le sortir de sa coquille puis voir véritablement ce qu'il peut valoir parce que c'est pas en lançant 10-15 fois par match que tu vas savoir ou non si tu as ton carrière d'avenir.
Réjean nous pose la question. Considérez-vous que la punition à Chris Jones pour conduite antisportive était méritée?
Bon, moi, j'aime pas ces punitions-là. Pour ceux qui savent pas, c'était les Colts étaient sur leur dernière poussée offensive au quatrième quart. Fallait qu'ils aillent chercher ce match-là contre les Chiefs. Chris Jones réussit un gros jeu défensif. Les Chiefs rabattent Matt Ryan au sol. Puis après ça, il s'enguirlande un peu, il s'engueule avec des joueurs de l'autre côté. On sait pas ce qui s'est dit, là, jusqu'à preuve du contraire. Puis les officiels ont sorti le mouchoir. Chris Jones, pénalité antisportive, 15 verges. Les Colts ont poursuivi leur séquence à l'attaque, puis finalement, ben, ils l'ont emporté. Écoute, moi, je suis pas partisan de donner des pénalités pour des mots, là, parce qu'on sait que dans la NFL, je pense que c'est pas des enfants de cœur tout le temps, puis ça s'engueule en masse, puis c'est où qu'il faut tracer la limite, je le sais pas. Est-ce qu'il a dit quelque chose qui n'avait carrément pas de sens, mais...
Mais la NFL a tracé un peu la ligne. Ouais. Dans le fond, eux autres, ils disent pas de taunting, là, tu sais.
Fait que, tu sais, c'est ça. Il n'y a rien eu de physique. Il n'y a pas eu d'altercation physique. Je suis pas partisan de ces pénalités-là, sauf que...
Mais t'as pas le droit d'être nerveux pour les épaules.
Le problème, c'est qu'il y a de même le livre. Les pénalités se donnent. C'est pas de la faute de l'officiel. Ce qui est plate, c'est que contrairement à il arrive de quoi de physique, l'officiel va caler la shot.
C'est clair.
Si c'est du verbal, ben là, ça laisse place à une zone d'interprétation. C'est ça que j'aime pas, en fait, dans le règlement. Que ça devienne arbitraire, finalement. Mais ça a été fait. Puis même Andy Reid, après la game, a dit, écoute, moi, le seul conseil que j'ai à donner à un vétéran d'expérience comme Chris Jones dans une situation comme ça, c'est ferme ta boîte.
Mais oui, c'est sûr.
Fait que, tu sais, c'est ça. Là. En bout de ligne, est-ce que c'est justifié? C'est arbitraire selon l'interprétation de l'officiel, mais il reste que tu as enfreint une zone que tu n'avais pas le droit d'enfreindre selon le livre des règlements. Donc, pas le choix de dire que c'était une mauvaise pénalité.
Puis qui est facile à éviter. Merci, Steph. Merci à tous pour vos questions. On vous rappelle que vous pouvez nous interpeller sur Twitter, nous écrire sur notre Facebook. Sur le site mes précieux conseils de fantasy. Et vous pouvez aussi nous écrire directement à l'adresse suivante, Steph.
Le bon vieux email, lazonepayante@quebecormedia.com. Toutes les façons, on vous lit, vous êtes intéressants, les questions, c'est le fun. On aime ça que vous participiez au show, donc on vous attend.
C'est une pause qui nous attend pour nous pour l'instant. Et ensuite, c'est l'heure des prédictions de la semaine 4 déjà de la NFL. Bougez pas.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee it.
C'est l'heure des prédictions pour cette semaine, la semaine 3, la semaine 4, oui, déjà de la NFL. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. Steph, ça a été quoi ta semaine 3 en termes de prédictions?
Bon, 9 encore. Moi, je suis constant, Jean-Nic. 9 à date, mes 3 bon. Semaines. 56% de moyenne à l'école, on passe pas, je le rappelle. Fait que je ne peux dire que ça va s'améliorer. Hein? Ça va bien aller, qu'on disait il y a quelques mois.
Moi, tu vois, je suis 7, 11, 9. Donc, ça fait le total 9, 9, 9, moi aussi, si je le sépare. Donc, on est à égalité, mon cher, en cette semaine 4. On va essayer de se départager cette semaine. Commençons avec un match attendu parce que ces deux jeunes carrières qui s'affrontaient dans des matchs incroyables à NCAA. Toi qui
LSU. LSU, là, sérieusement, contre Bama, c'était quelque chose.
Et là, on enregistre et toi dit qu'il souhaitait jouer le match. On comprend qu'il va le jouer. Les Dolphins qui pratiquent à peu près pas cette semaine sont en déplacement. On va voir parce qu'il y avait beaucoup de joueurs sur la liste des blessés en début de semaine. Je pense qu'il y en avait 15. Les Bengals qui sont favoris, tout dépendant des preneurs au livre, là, mais c'est autour de favoris par 3, 3.5.
J'ai les Bengals aussi. Je comprends qu'en ce moment, ça me surprend qu'ils soient favoris, sincèrement. Là, de la façon dont Miami joue, c'est extraordinaire, mais il y a le facteur fatigue. Là, tu vas me dire, ouais, mais Cincinnati aussi ont joué dimanche. Oui, mais ils ont joué contre les Jets, un match relativement facile. Ils n'ont jamais été menacés. Les Dolphins ont joué un match de série. Tu sais, ceux qui ont écouté ce match-là, c'était extraordinaire. Ça frappait. Ça tombait comme des mouches. C'était intense à un point qu'on se disait, il y a quelque chose entre ces deux équipes-là, vraiment. Là. Je pense qu'émotivement, physiquement, ça revient très vite ce jeudi-là pour les Dolphins. Puis c'est juste pour ça, moi, que je favorise les Bengals. Je pense pas que c'est une meilleure équipe dans le moment, mais j'ai peur un peu de l'effet fatigue, de l'effet on retombe un peu du nuage du côté des Dolphins.
Ben surtout que les Dolphins ils ont eu de la difficulté à se concentrer avec toute l'histoire entourant Tua. Puis, écoute, si on me suit, moi, les Dolphins sont 0-4. Est-ce que je vais prendre aussi les Bengals?
C'est le partisan le plus pessimiste de l'histoire de l'humanité, tout simplement.
Je vais continuer dans ma séquence. Alors, comme j'ai mis les Dolphins perdants chaque semaine, on va les mettre encore perdants cette semaine. Ça me brise un peu le cœur. Je pense qu'ils vont être aussi un peu la langue à terre jeudi. Meilleure chance pour contre les Jets pour la fin de semaine, l'action de grâce. Donc, victoire des Bengals. OK, on s'en va à Londres, hein, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Alors que les
Vikings. Match à 9h30.
Oui, 9h30, c'est dimanche matin. Alors que les Vikings vont rejoindre les Saints et leur casque noir.
Ouais, alors, Londres, ils sont tellement pas chanceux. Juste une petite note un peu comique, Jean-Nic. Ça va être le 31e match à Londres dans l'histoire de la NFL. Et jamais, à ce jour, il va y avoir un match avec les deux équipes qui présentent une fiche gagnante. C'est quand même incroyable. 31 fois, encore cette année, parce que les Saints sont à 1-2, les Vikings sont à 2-1. On se demande si les pauvres londoniens vont vivre ça un jour, un match entre deux clubs gagnants. Là, ça semble pas être dans les plans.
Faut dire qu'ils ont les Jaguars souvent.
Oui, effectivement. Puis tu sais, ils ont eu l'année passée les Dolphins au moment où ils étaient 1-5, quelque chose comme ça. Là. Donc, il y a eu souvent des équipes un peu misérables. C'est pas le cas cette année. Je pense que c'est deux bonnes équipes, mais il n'y a toujours pas deux fiches gagnantes. L'attaque des Saints, qui a inscrit 24 points à ses deux derniers matchs, c'est clairement pas convaincant. Je vais y aller avec les Mauves.
Ouais, moi aussi, je pense que les Vikings ont montré qu'ils sont capables de trouver la zone début par la voie des airs aussi. Ça me rassurait en fin de semaine. Je pense qu'ils vont vaincre les Saints qui ont de la misère, eux, par la voie des airs. Victoire des Vikings. OK, on s'en va maintenant à Atlanta, 2-1 match qui passera pas à l'histoire, les Browns contre les Falcons.
Non, c'est ça, mais il y a quand même un enjeu pour les Browns au sens où eux, s'ils continuent de gagner quelques matchs ici et là, tu sais, tout ce qu'ils leur demandent, c'est de survivre. Tu sais, Jacoby Brissett qui joue du football correct jusqu'à maintenant, imagine si cette équipe-là arrive à la fin de la suspension de Sean Watson avec une fiche, par exemple, de, je sais pas moi, 6-5, quelque chose comme ça. Ça pourrait faire jaser. Donc, eux, ils ont un incitatif. Je dis pas que les Falcons en ont pas, mais c'est clairement une saison qui s'annonce plus difficile de ce côté-là. Je vais y aller avec les Browns, leur attaque au sol redoutable. C'est vraiment du gros travail que Nick Chubb et Kareem Hunt font depuis le début de l'année. Même si tout le monde dans le stade sait qu'ils vont courir et encore courir avec le ballon, ils réussissent à s'imposer. C'est impressionnant. Donc, Browns, victoire.
Ils sont chanceux d'affronter les Falcons en fin de semaine, les Browns, parce que je trouve pas qu'ils sont... Oui, là, l'attaque au sol fonctionne, là, mais il y a à peu près juste ça qui fonctionne pour les Browns.
Ben, si tu oublies, par contre, l'effondrement monumental contre les Jets dans les deux dernières minutes, là, la défensive, oublie ces deux dernières minutes-là, la défensive joue plutôt bien depuis le début de la saison.
Quand le Myles Garrett a fait un crash avec son char.
Ouais.
Là, ce que je comprends, il va jouer là, parce qu'il est sorti de l'hôpital sans trop de blessures, mais dans quel état, on le sait pas.
Quand même à noter, ouais.
Victoire des Browns, moi aussi, parce qu'ils sont chanceux d'affronter les Falcons, mais ils déclasseront pas les Falcons, à mon avis. OK, les Bills, tout amochés, s'en vont jouer contre Lamar Jackson et les Ravens.
Hey, Lamar Jackson, est-ce que c'est possible? Je pense qu'il joue encore mieux qu'à son année MVP en 2019. C'est fou comment il est bon. Il mène la NFL non seulement avec 10 passes de toucher, mais en plus, si tu regardes dans le classement des porteurs de ballon, là, il est 5e pour les gains au sol. C'est fantastique tout ce qu'il fait en ce moment. C'est un one-man show, les Ravens. Est-ce que ça peut durer? Je le sais pas. Mais il est vraiment dominant, Lamar Jackson. Ce qui est moins dominant, par contre, c'est la défensive contre la passe. C'est cette défensive-là a été exposée contre des corps arrière là, qui sont pas les meilleurs de la NFL. Je pense à des Mac Jones, des Joe Flacco. C'est clairement une lacune cette année. Puis là, t'affrontes Josh Allen. Je comprends que les Bills ont à peu près... des dizaines de blessés, ça finit plus de tomber, mais à cause du facteur Josh Allen, Stephon Diggs, Gabe Davis, contre cette tertiaire-là qui semble pas trouver de solution, je vais y aller avec les Bills.
Mais moi, je vais prendre les Ravens, là. Je trouve
deux défaites Bills, de suite pour Buffalo.
Ouais, parce que je trouve que les Bills ne m'ont pas convaincu au sol contre les Dolphins, qui ont beaucoup de problèmes à arrêter au sol. Même s'ils ont traversé le terrain plusieurs fois, ils ont eu de la difficulté à trouver la zone début. On le disait tantôt, mais ils ont gardé le ballon 40 minutes. Puis ils n'ont pas été capables de faire plus que 17 points à l'attaque.
63 passes pour Josh Allen.
Tu sais, c'est pas normal. Tu sais, il y avait une statistique un peu weirdo, là, mais il y a deux équipes depuis 16 ans qui ont accordé plus de 275 verges de plus à l'adversaire, mais qui ont gagné quand même. Et les deux équipes, c'est les Dolphins, une fois en 2020 avec toi et cette semaine avec les Bills. Les Bills, peut-être qu'ils vont avoir un début de saison où les attentes sont grosses, la pression est forte. On a vu Josh Allen aller se faire réconforter dans les bras de Tua à la fin du match. C'était une
scène. Ah, il était épuisé, là, c'était fou.
Il était épuisé, mais c'était quasiment... Je sais pas quel genre de pression subissent les joueurs à Buffalo en ce moment. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup sur les épaules. Pendant ce temps-là, les Ravens sont eux aussi ont des blessures, mais sont vraiment en mission avec Lamar Jackson. J'y vais avec les Ravens. Les Commanders, eux, s'en vont à Dallas affronter une défensive là, qui en fait voir de toutes les couleurs au corps arrière des autres équipes.
Oui, tout à fait. Les Cowboys, d'ailleurs, qui ont beaucoup de succès contre Washington. Ils ont gagné 9 de leurs 12 derniers matchs. Puis c'est, tu parles de la défensive des Cowboys. Écoute, c'est un sommet cette saison, 13 sacs du corps. Pis ça vient pas juste de Micah Parsons, c'est ça qui est le fun. De Marcus Lawrence peut appliquer la pression aussi. C'est une bonne défense, bien équilibrée. Puis au contraire, Washington, qui est très, très mauvais du côté de la protection de Carson Wentz, c'est là que ça va jouer. Donc, victoire Cowboys.
Ouais, j'avais mis les Cowboys vainqueurs il y a deux semaines avec Cooper Rush, parce que je me disais que les joueurs allaient se rallier autour de Cooper Rush. Je m'attendais à une mauvaise performance de Cooper Rush en fin de semaine. Je l'ai pas eu. Pas une excellente non plus, mais quand même, assez pour gagner. Je vais retourner avec les Cowboys parce que c'est à domicile puis qu'ils m'ont quand même convaincu avec leur match contre les Giants qui était 2-0 avant de ce match-là. Les Seahawks s'en vont à Détroit qui encore un mauvais début de saison pour les Lions. Encore Dan Campbell qui passe proche de pleurer puis qui dit que c'est de sa faute. C'est comme pauvre Lyon, là. Ils ont une bonne équipe, là. Qu'est-ce qu'ils attendent de gagner un match?
Ben, écoute, ils ont quand même chauffé les Eagles en première semaine. Ils ont gagné leur match de deuxième semaine, tu sais. Mais là, on parlait tantôt des absences possibles. Saint Brown puis Swift, ça va être la clé à surveiller, là. Si ces deux gars-là jouent pas, moi, je donne les Seahawks gagnants. Puis, écoute, ils ont une très mauvaise défensive, là, contre le sol, les Seahawks. C'est pour ça que DeAndre Swift doit jouer. Parce que sinon, bon, Jamal Williams peut faire le travail là, tu sais, pour un match. Je dis pas qu'il est pas capable, mais c'est clairement pas le potentiel d'explosion que démontre Swift. Je vais prendre pour acquis que ces deux gars-là jouent pas, puis je vais y aller avec une victoire des Seahawks, quitte à m'ajuster là, pour mes prédictions qui paraissent le samedi dans le journal.
Écoute, pour une des rares fois dans les dernières années, les Lions sont favoris pour ce match-là.
Ouais.
J'ai pas regardé le match au complet des Seahawks, mais tout ce que j'ai vu de Geno Smith est affreux.
Rappelle-toi qu'il était supposé d'aller au Temple de la Renommée après sa première demi contre les Broncos.
Oui. Mais là, on a vu ce qu'étaient vraiment les Broncos cette saison jusqu'à maintenant, puis on reconnaît le bon vieux Geno Smith. Moi, je pense que les Lions vont prendre l'avance quelque part dans le match, puis que Geno Smith sera jamais capable de rattraper. Victoire des Lions, même si DeAndre Swift est pas là. Chargers! À Houston, alors que les Texans... écoute, le seul joueur... Je pense qu'il y a deux carrières qui n'ont pas d'interception depuis le début de la saison, puis Davis Mills en fait partie.
Ouais, c'est pas facile. Il faut dire qu'il y a une grosse commande, là. On a fondé beaucoup d'espoir en lui, puis lui, il sait que son futur est en jeu. Parce qu'on en parlait avant le début de la saison. Davis Mills, s'il fait pas extrêmement bien, ben les Texans, l'an prochain... ils vont repêcher tôt, puis ils vont repêcher un carrière. Donc, sa job est en jeu. Ça doit être une pression assez difficile pour le jeune. Est-ce qu'il va avoir une vraie chance de se faire valoir? Je pense pas. ce match-là, ce qui est à surveiller, selon moi, au-delà des blessures des Chargers, c'est que c'est la pire équipe contre le jeu au sol. La défensive des Texans est la pire dans la ligue. Ils donnent 202 verges au sol par match. Mais les Chargers, c'est la pire équipe au sol. Ils gagnent seulement 59 verges par match. Fait que je pense que c'est le moment là, pour les Chargers de relever cette attaque au sol-là, de relancer un peu Austin Eckler qui en arrache un peu depuis le début de l'année. C'est le temps d'attaquer les Texans là où ils sont pas capables de se défendre. Je vais y aller avec cette stratégie-là puis une victoire des Chargers.
Les Texans sont à domicile. Leur attaque va quand même pas si mal. Mais je suis pas capable d'y mettre gagnant contre les Chargers.
Ah!
surtout que les Chargers vont quand même, tu sais, il y aurait nulle part qu'on voit que Justin Herbert sera pas derrière la ligne de mêlée. Fait que, avec Justin Herbert, je suis quand même confiant que les Chargers vont rebondir après leur défaite de cette semaine. Les Titans s'en vont affronter les Colts à Indianapolis. Les Colts, ouais, quand même sur un... Ils ont souri cette semaine là, pendant l'entraînement.
Ouais, puis elle est pas facile celle-là, parce qu'on parle quand même de deux équipes qui viennent d'aller chercher une première victoire, qui pourraient là, être sur un bel air d'aller. Très, très, très embêtant. J'y vais avec les Colts. Écoute, ils ont des problèmes à ligne à l'attaque. Ça me stresse bien gros. Mais du côté des Titans, c'est pas nécessairement là, un pass rush qui est mortel jusqu'à maintenant cette saison. Je vais y aller avec les Colts dans ce match-là.
Ouais, moi aussi. Là, Matt Ryan puis Ryan Tannehill, c'est comme on dirait une autre génération. Puis deux corps à qui on fait plus confiance. Quoique j'ai jamais vraiment fait confiance à Ryan Tannehill, mais à ce stade-ci, je pense que Matt Ryan est plus capable de contrôler son attaque. Je vais prendre les Colts, moi aussi, qui sont favoris par un toucher à domicile, par un placement, pardon, à domicile.
On parle des corps, puis ça devrait être avant toute chose un duel entre deux excellents porteurs de ballon, Derrick Henry puis Jonathan Taylor.
Raison, mais deux porteurs de ballon qui n'ont pas jusqu'à maintenant démontré qu'ils étaient capables de traîner leur équipe sur leur dos cette année, mais il est tôt.
Exact.
On parlait de Justin Fields. Il s'en va affronter Daniel Jones. Là aussi, on part des corps arrière, mais d'après moi, c'est pas eux qui vont gagner le match en fin de semaine.
Non, c'est ça. Puis, écoute, on parlait de Fields tantôt, ça sert à rien d'en rajouter, mais c'est vraiment pénible. Tu sais, l'attaque des Bears repose à peu près entièrement sur le jeu au sol. Même la semaine passée, quand David Montgomery est tombé au combat, Khalil Herbert a fait un très bon travail. Mais les Giants, on peut leur reprocher bien des affaires, mais ils jouent quand même bien défensivement. Ils ont un bon front défensif qui peut maîtriser, je pense, le jeu au sol des Bears. Des gros bonhommes sur cette ligne défensive-là. Puis à l'attaque, ben écoute, c'est pas ce qu'on voudrait voir avec Daniel Jones puis sa ligne à l'attaque qui sait pas le protéger. Mais Saquon Barkley connaît un très bon début de saison. Ça fait du bien de le voir comme ça après des années de blessures puis de vaches maigres. Je pense qu'il va faire la différence dans ce match-là en faveur des Giants.
Je pense que les Giants ont appris, moi, de leur match contre les Cowboys puis qu'ils vont s'ajuster avec Daniel Jones en lui donnant des options un petit peu plus courtes. Et je pense que leur attaque va progresser puis ils vont garder le ballon plus longtemps que Justin Fields puis ils vont gagner la bataille des revirements. Victoire des Giants. Les Jags s'en vont affronter la seule équipe invaincue de la Nationale, Philadelphia Eagles.
Wow, c'est super intéressant ce match-là. Comme je le disais tantôt, j'ai hâte de voir les Jaguars contre une équipe en feu comme les Eagles. Il y a plusieurs points dans ce duel-là. C'est le retour de Doug Peterson à Philadelphie. Là. Ouais. Hey, oublie pas une chose, il a pas été là longtemps, mais il y a toujours bien une statue en face du stade, lui, ouais. Quand même.
Une statue big bag.
Oui, la statue, bon, c'est comme je te dis, là, il a eu juste le temps de faire le moule là, à peu près, puis il est parti, mais bon. En dehors de ça, les Jaguars, s'ils l'emportent, ce serait la première fois depuis 2017 qu'ils gagneraient trois matchs de suite. C'est quand même pas rien, là. C'est pour te montrer comment ça arrive pas souvent dans leur histoire. Et puis, en ce moment, ils ont le deuxième meilleur différentiel de points dans la NFL après trois semaines, plus 46, les points pour et les points contre. C'est intéressant ce qu'ils font, vraiment impressionnant même les Jaguars. Mais Jalen Hurts est tout simplement trop en feu en ce moment. On parlait de Lamar tantôt, là, mais c'est un autre corps arrière qui se démarque vraiment à travers la NFL cette année. Un bond vraiment prodigieux par rapport à l'an passé. ça va continuer dans ce sens-là. Victoire Eagles.
Ouais, moi, je pense
que. Je sais que tu vas y aller avec les Jaguars. Hein.
J'allais dire, les Eagles gagneront pas tous leurs matchs cette année. Ils vont en perdre, mais ce sera pas contre les Jaguars en fin de semaine.
Ah.
Victoire des Eagles. Les Jets contre les Steelers à Pittsburgh.
Ouais, il n'y a pas grand-chose à surveiller, à part que ce serait potentiellement, on n'a pas la confirmation au moment où on enregistre, mais ce serait potentiellement le retour de Zach Wilson comme corps arrière des Jets. Ça, c'est important, je pense, de le souligner. Pas oui. parce qu'il a été si dominant à sa saison recrue, mais il y a de bons nouveaux éléments là, au sein de l'attaque. T'sais, on parle de Breece Hall, le porteur de ballon, de Garrett Wilson. On en discutait tantôt avec les questions des auditeurs. Je pense qu'on lui a donné des armes de plus pour réussir. C'est sa deuxième année. Il y a un peu plus de bagages. J'ai hâte de le revoir en action. Mais, cela étant dit, je favorise quand même les Steelers.
Bon, ben, on ne se chicanera pas beaucoup cette semaine parce que les Steelers à domicile, ils vont donner du fil à retordre aux Jets là, qui, malgré des progressions, sont pas encore rendus à un stade d'affronter une équipe dans un environnement hostile et de gagner dans l'adversité. Donc, victoire des Steelers. Les Cards s'en vont voir les Panthers en Caroline. Ça aurait été un match facile à prévoir l'année passée, mais là, cette année, j'ai bien hâte de t'entendre.
Ouais, le gros problème d'Arizona, c'est pas compliqué, c'est qu'ils commencent pas le match à l'heure à chaque fois. À chaque semaine, depuis le début de l'année, ils prennent un gros retard, ils se retrouvent à ramer contre le courant. C'est plutôt compliqué à ce niveau-là. Là, ils en ont parlé. Cliff Kingsbury a adressé ce problème-là cette semaine, semble-t-il. Mais qu'est-ce que ça va donner comme résultat concret? Dur à dire. Je vais y aller quand même avec les Cards cette semaine. Là, tu vois mon niveau de conviction élevé hein, dans ma voix. Kyler Murray devrait sortir un gros match, mais j'arrive pas à m'expliquer à quel point il joue mal Arizona cette année. Tu sais, tu fais exception du quatrième quart contre les Raiders. C'est tellement pas du beau football. Défensivement, c'est sûr qu'ils ont pas ben d'équipe. Mais à l'attaque, ils devraient faire mieux, même si DeAndre Hopkins purge encore sa suspension. Je sais même pas pourquoi je leur fais confiance, mais j'y vais avec eux. Tout simplement.
Ben, moi, en tout cas, j'étais inquiet là, de voir Kingsbury cette semaine. On dirait que...
Il a l'air à court de solutions.
Il a l'air à court de solutions. On dirait qu'il maîtrise pas son équipe. Je sais pas c'est quoi la relation avec son corps arrière, mais t'sais, avec l'été qu'ils ont eu, on dirait que c'est pas au beau fixe. Tu as raison de dire que Kyler Murray fait des affaires pour sauver son équipe, mais on dirait qu'il est fait tout seul encore.
Ouais.
Fait que, à domicile, je vais y aller avec les Panthers.
Okay.
Victoire de la Caroline en espérant qu'ils réussissent à arrêter le jeu aérien des Cards. OK, les Pats s'en vont à Green Bay dans de l'incertitude. Ils sont ouais. Écoute, c'est rare qu'on voit ça, là, mais les Packers sont favoris par presque 9 points. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est fort possible qu'ils couvrent les corps, hein. Honnêtement, je serais pas surpris parce que les Packers, il y a la situation au poste de corps qu'on parlait tantôt, la blessure de Mac Jones.
Les Pats, tu veux dire, ouais.
Les Pats, oui, effectivement, excuse-moi. Les Pats, si Mac Jones, par un grand miracle du Saint-Esprit, arrive à être là, il sera pas en santé, tout simplement.
C'est quand même Jones qui a lancé 3 interceptions en fin de semaine.
Ouais, et puis la grosse logique veut qu'il soit pas là de toute façon.
Exact.
Les Pats, on risque de revoir les bons vieux Pats qui courent, qui vont avec des jeux de passe très courts. Je pense que le défensif de Green Bay est largement capable de maîtriser ça. On les a vus, ils ont été excellents contre le jeu au sol. Ils ont limité Tampa, je pense, à quelque chose comme 34 verges au sol la semaine passée. Donc, une victoire assez confortable des Packers de mon côté.
Les Broncos qui ont son chanceux en fin de semaine.
Tu y vas avec qui, toi, Jean-Luc?
Je vais avec les Packers, oui, excuse-moi. Oui, okay. Oui, les Packers qui vont... je ne sais pas, moi, s'ils vont couvrir, là, parce que c'est pas comme si les Packers ont une facilité à empiler les points cette année, là, mais disons que je vois une victoire des Packers là, sans trop de difficultés. OK, les Broncos, ben, ce que j'allais dire, c'est que les Broncos, une bonne nouvelle pour eux cette semaine, ils ne seront pas hués. En tout cas, pas par leurs partisans. Ils s'en vont à Las Vegas pour affronter les Raiders.
Ouais, c'est ça. Ça risque d'être quasiment plus détendu comme atmosphère. Ben oui,
tu dois rêver de jouer ailleurs qu'au Mile High.
Quoi que ce soit. C'est un autre match. Ouais, c'est ça. Le stade a tellement changé de nom au fil des ans, mais ça reste Mile High dans notre tête. On se comprend. ces deux équipes, vraiment, ça joue pas du gros football, on s'entend. Là. Même si les Broncos sont 2 et 1, c'est l'équipe de 2 et 1 peut-être la moins convaincante dans le football actuellement. À part défensivement, il n'y a pas grand-chose à redire de ce côté-là. Les Raiders, je pense que ça se peut pas là, que ça continue la chute libre comme ça. Ils vont finir par gagner des matchs. Je vais y aller avec une victoire cette semaine, tiens. Comme je le disais, ils s'accrochent, ils passent proche à chaque semaine. À un moment donné, la chance va leur sourire. Je veux en voir plus du côté de leur attaque. C'est dur contre une défense comme Denver, par exemple. Mais c'est un club qui joue généralement bien contre les Broncos à la maison. Ils n'ont pas perdu à maison contre les Broncos depuis 2015. La chance va tourner de leur côté cette semaine.
Ouais, moi aussi, je pense que là, Derek Carr va avoir eu une belle semaine à se préparer. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils, là. Il savait peut-être pas trop comment les utiliser. Même s'il a réussi à faire des points puis à faire marcher McCollins en fin de semaine, je pense que là, ils vont empiler des points contre Denver. Puis Denver sera pas capable de suivre le rythme. Victoire des Raiders. C'est le match du dimanche soir. Les Chiefs qui s'en feront affronter Tom Brady à Miami ou à Tampa Bay, on ne sait pas encore.
Ouais, une revanche du Super Bowl d'il y a quoi, il y a 2 ans, c'est ça? On se rappelle à ce moment-là qu'est-ce qui s'était passé. Là, les Buccaneers avaient complètement dominé la ligne à l'attaque des Chiefs. Depuis ce temps-là, par contre, faut le dire, là, parce que ça, c'est le passé, les Chiefs se sont donné beaucoup, beaucoup de nouvelles munitions sur la ligne à l'attaque, justement. C'est plus du tout la même game. Les deux attaques, là, tu sais, c'est pas l'attaque des Chiefs qu'on a connue par le passé. Puis Tampa Bay, c'est clairement une attaque qui cherche en ce moment. Ça pourrait être un match à plus bas pointage qu'on pense. Puis j'y vais avec les Chiefs. Il y a quelque chose qui se passe, c'est tout croche. Là, je comprends que Mike Evans va être là cette fois-ci. Mais Tampa manque ses cibles de l'an dernier. Là, tu sais, Chris Godwin qui tarde toujours à revenir. Je sais pas s'il va être là. Même chose pour Julio Jones. C'est la ligne à l'attaque du côté des Bucks qui me chicote un peu. Tom Brady qui se retrouve souvent en dessous de piles de monde très rapidement. Pourtant, il décoche encore le ballon très vite. Mais la pression arrive à un rythme vraiment surprenant. Donc, victoire des Chiefs.
Tu l'as dit, la dernière fois que les Chiefs se sont rendus à Tampa Bay, c'était pour jouer le Super Bowl. Ils l'ont perdu. Moi, je pense qu'ils s'en rappellent. Puis, ils vont les battre. Les Buccaneers et Tom Brady, est-ce qu'ils vont être à Tampa Bay? On le sait pas. Étant donné les conditions météo, peut-être que ça va jouer à Miami, mais ça va être en Floride. Ouais.
D'ailleurs, l'équipe s'est entraînée à Miami toute la semaine.
Exact. Alors, les Chiefs vont remporter le match contre les Bucks. Et on termine avec les Rams, un match intra-division contre les Niners, Monday Night Football.
Ouais, ça devrait être bien, en autant que les Niners jouent pas un match offensif comme la semaine passée. Là, c'était pitoyable de voir aller Jimmy Garoppolo qui s'auto-safety.
Oui.
C'est un vu le jeu. Oui, oui. Il a fait un Dan Orlovsky de lui-même. Ça, c'est pas peu dire.
D'ailleurs, Dan Orlovsky qui a tweeté que c'était la plus belle journée de sa vie, là, qu'elle a arrêté le seul à être la cible de tous les colibets à propos de sortir soi-même en safety.
Ah ouais, c'était excellent ça. Puis écoute, les Niners qui ont souvent beaucoup de succès contre les Rams, c'est une équipe qui sont capables de bien matcher. Puis j'aime pas depuis le début de l'année, la ligne offensive des Rams, c'est clairement pas la ligne offensive des dernières années. Puis contre le front des Niners, ben c'est de mauvais augure honnêtement. J'y vais avec une victoire des Niners dans ce match du lundi soir.
Ouh, OK, moi je vais y aller avec les Rams parce que j'ai des yeux pour voir le match que les 49ers ont joué en fin de semaine. Sérieusement, ils vont avoir, d'après moi, une saison qui va être difficile s'il faut qu'ils marquent, faut qu'ils gagnent des matchs sans marquer 20 points. Je pense que les Rams vont marquer plus que 20 points contre les Niners. Victoire des Rams! Merci, Steph, pour cette semaine de prédiction. On va voir nos résultats à la fin de lundi, à la fin du match du lundi soir. On va être de retour avec nos prédictions la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on fait une pause. Et après la pause, c'est la chronique au bar. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Alors, on est de retour à la zone payante et c'est le moment de votre chronique favorite. Une chronique dont vous avez demandé le retour en grand nombre et que nous avons le plaisir de vous offrir. C'est le retour de la chronique au bar. Steph, qui tu envoies au bar cette semaine?
C'est de plus en plus mielleux, hein, ton appellation du bar, là. C'est quand même quelque chose, ouais. Ouh.
Je fais aller mon muffler, le bar.
Moi, c'est quasiment bizarre d'envoyer une légende comme ça au bar, mais pas le choix, là. Honnêtement, ça occupe de plus en plus de place dans l'actualité footballistique. J'envoie Brett Favre au bar.
Non.
On a le droit d'envoyer des anciens?
Bien sûr.
Oui, c'est pas, on n'a pas de règles au bar, non?
Non.
Ça fait que c'est correct. Moi, j'envoie Brett Favre. Pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce que, écoutez, il faut voir cette histoire-là. C'est complètement horrible. Brett Favre qui a détourné des fonds publics. C'est quoi? C'est destiné, je pense, à des organismes de charité ou... En tout cas, c'est pas clair encore, on n'a pas tous les détails, mais des fonds publics dans l'État du Mississippi, qui est l'État, soit dit en passant, qui est le plus pauvre aux États-Unis, pour faire construire des installations de luxe de volleyball à l'université. Mais pourquoi? Parce que sa fille évoluait pour l'équipe.
Ouais.
Hey, honnêtement,
ça paraît pas bien, là.
Non, clairement pas, tu sais. Puis Brett Favre, cette valeur, parce qu'il a été, au-delà là, de ses performances sur le terrain, ça a toujours été l'image du gars ultra sympathique, du gars avec qui on aurait le goût justement d'aller au bar, tiens, prendre une bière, puis sympathiser, puis se raconter des anecdotes de sa glorieuse carrière, tu sais. Il a l'air du gars tellement simple puis tellement hop la vie que je ferais pas des affaires de même. C'est très, très, très décevant, honnêtement, de voir ça. Surtout, comme je mentionnais, considérant l'état du Mississippi, là. C'est une légende là-bas. C'est un immortel. C'est très triste. Fait qu'écoute, c'est difficile de donner une punition qui est juste parce qu'il n'y en aurait pas, là. Tu sais, moi, je dirais... On va y donner juste un hurricane, un bon vieux hurricane, parce que c'est une tempête de schnout qui va s'abattre sur lui, je pense, dans les prochains mois. Ça sera le cocktail.
Plusieurs trouvent qu'il s'en sort bien, d'ailleurs.
À date, oui. À date. Mais ça se peut pas. Moi, je peux pas croire que ça va rester comme ça. Il y a des textos qui sont rendus publics où il paraît très mal. Des échanges avec les autorités, là, qui le font très, très mal paraître. Il était très au courant de la situation. Puis même, il disait, est-ce que c'est possible qu'un jour les médias tombent là-dessus? T'sais? Oh, c'est vraiment, vraiment pas chic. Brett, donc, surtout, un hurricane.
Surtout, excuse-moi de te couper encore, mais surtout après ces histoires de textos un peu osés.
Ah oui,
textos osés.
Louches. Oui, oui, oui.
La matrice de télé, là. Il y aurait
à New York.
Ouais.
Il y aurait ça, c'est un passage, c'est les Jets à oublier à plusieurs niveaux, là, mais citer, ça principalement.
Pour citer Josh McDaniels, il aurait pu apprendre sa leçon.
Oui, tout à fait. Fait que, pour Brett Favre, un hurricane, ne passez pas go, ne réclamez pas 200, allez direct en prison.
Mon client au bar, moi, cette semaine, c'est Ken Dorsey. Est-ce que tu as vu la crise qui a piqué après la défaite des Bills dans la galerie en haut? Le coordonnateur offensif des Bills a tout décalissé ce qu'il y avait autour de lui, incluant sa tablette, la caméra. Écoute, il était furieux. Puis là, évidemment, ça a occupé les 24 premières heures. Ben, en fait, il y a eu plusieurs excuses, entre guillemets, là, qui ont été utilisées pour expliquer la défaite des Bills. Entre autres, plusieurs demandaient pourquoi il laissait les joueurs des Bills à la chaleur alors que les joueurs des Dolphins étaient à l'ombre. Home advantage, qu'on répondait. Mais Ken Dorsey, lui, il était furieux de voir son équipe manquer de temps pour tenter un placement en fin de match. Et tu sais qui... en fait, son entraîneur lui a demandé d'essayer de garder ses émotions, puis Ken Dorsey lui-même a dit « Je vais essayer de me calmer. » Mais Josh Allen, lui, a adoré de voir l'émotion que Ken Dorsey donnait pour gagner un match, on le comprend. Et Tom Brady, reconnu pour avoir scrappé dernièrement une tablette, a dit qu'il n'était plus le seul à avoir des problèmes de tempérament et que ça le réjouissait. Donc, il a philosophé un peu sur Ken Dorsey. Alors, Ken, je pense que je vais l'envoyer au bar, mais tu sais, quand t'arrives avec le coffre de tisane, là, je vais lui offrir de prendre une tisane à la camomille pour le calmer un petit peu, pour que il reprenne un peu ses sens, parce qu'il s'en va jouer à Baltimore. ça se peut qu'il y en ait de besoin aussi après la game. Ça se peut que il y ait un gros match et que ça finisse aussi dans les dernières secondes. Il va falloir qu'il gère un petit peu mieux ses émotions.
La camomille, c'est une bonne idée. C'est le remède tout prescrit, je pense.
Merci, Steph. Merci à toi, d'ailleurs, cette semaine, d'avoir été là encore une fois. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous. On vous propose de nous rejoindre encore une fois la semaine prochaine, après la semaine 4 de la NFL. Et on se retrouve donc mercredi. Au revoir.